Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons faire une lecture suivi d'une méditation. Alors c'est une exhortation, ça peut être aussi un enseignement. En raison de ce que nous apporte l'actualité, je vous dirais que ce ne sera pas politique. Mais il y a bien d'autres situations qui ébranlent la terre, qui quelque part jettent l'effroi et l'angoisse dans les cœurs. Ce qui n'est pas notre cas, en tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous chrétiens. Mais néanmoins, nous avons besoin d'être rafraîchis dans notre sécurité. Ouais. Sécurité morale, sécurité spirituelle. Alors, je vous invite à ouvrir le livre des psaumes. Par exemple, le psaume 112. Le psaume 112 et quelques versets qui vont nous enraciner, on peut dire, dans la pensée, à mémoriser naturellement. Psaume 112 et le verset 4. Alors, retenez bien ceci. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Oui, il y a une question finalement et bien d'environnement ténébreux, mais il y a quelque chose qui jaillit en lumière. Eh bien, c'est tout simplement ce que Dieu est capable de faire pour nous éclairer lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, c'est réservé tout cela pour celui qui est miséricordieux, qui est compatissant et juste. Ce sont des qualités cardinales de l'enfant de Dieu. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Tout ça, ce sont des principes qui nous sont rappelés, car, et nous en avons le résultat, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, et il ne craint point les mauvaises nouvelles. Alors, c'est de ces mauvaises nouvelles que nous allons parler, parce que c'est vrai que nous craignons beaucoup les mauvaises nouvelles, d'une manière ou d'une autre. Et il y en a qui sont plus ou moins terrifiantes, d'autres qui sont véritablement, qui nous handicapent. Voilà, on peut multiplier naturellement tout ce qui peut accompagner les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, alors son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et il est rajouté pour une deuxième fois, son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Quel bonheur de ne plus avoir de crainte. Et je pense que parmi l'auditoire qui est composé ce matin, on a tous quelque chose, on a tous des fardeaux sur le plan de nos enfants, de nos petits-enfants, peut-être par rapport à notre vie économique, notre vie sociale, peut-être dans notre vie de couple, peut-être de tout ce qui se passe à l'extérieur, et c'est surtout cela. Voilà, qu'est-ce que l'on va devenir? Et s'il y avait ceci? Et s'il y avait cela? Et il nous est bien dit, mais de toute manière, son cœur ne craint point. Son cœur ne craint point. Son cœur est fidèle à Dieu. Son cœur est solide. Il est enraciné. Et j'aimerais donner un titre. C'est original. J'aimerais donner un titre à notre méditation, comme je le fais à chaque fois d'ailleurs, ça permet le repère. C'est « Dans l'œil du cyclone ». Alors il y a des inquiétudes. Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous faites pas de soucis, il y a des choses secondaires, des choses qui ont peu d'importance, et puis elles passent, naturellement. Mais il y a des choses qui sont véritablement nous pourrions dire, le commun de tous les hommes, et il y a aussi, eh bien, des passages qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. Et c'est comme un tourbillon qui nous emporte, on ne peut rien faire. Ouais. Moi, je voudrais vous parler des tourbillons de la vie. Je voudrais vous parler des tourbillons naturels, on va s'appuyer là-dessus, et puis des tourbillons spirituels. Alors on va voir cela dans l'œil du cyclone. Et par le détail, moi je ne suis pas un savant, ça c'est sûr, mais une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons, devant les faits, et moi j'aime bien ça, des recherches, avec Internet ou dans des bouquins, mais j'aime bien savoir ce qui se passe. La composition finalement de ces vents diaboliques, de ces souffles diaboliques. Alors, ça c'est le côté spirituel, quand on parle de diabolique. Mais il y a aussi des phénomènes géographiques. Il y a des circonstances qui sont liées à la nature, à des dérèglements de la nature, à des choses qui finalement, eh bien, qui ont toujours existé. Mais c'est parce que nous suivons d'une génération à une autre. Mais ce qui s'est passé hier, ça se passe encore aujourd'hui. Peut-être avec beaucoup plus d'ampleur, dans l'œil du cyclone. Et j'aimerais justement tourner cette page qui est quand même assez terrible, angoissante, qui ne doit pas l'être pour nous, parce que vous allez avoir finalement les réponses. C'est un propos, le psaume que nous avons lu tout à l'heure, c'est un propos de paix et de repos. Ne crains point, que votre cœur ne se trouble point, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. Propos de paix et de repos dans les tempêtes. Nous sommes à la merci, finalement, de connaître des moments difficiles dans notre vie. Mais Jésus nous l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ouais, vous aurez des tribulations. Nous avons eu des tribulations. Nous allons certainement voir, soit en particulier ou finalement en collectif, eh bien, voir des choses qui sont véritablement, eh bien, des cyclones, des typhons qui arrivent. Vous savez, je le dis à chaque fois, mais bénissez le Seigneur que nous avons pu, depuis la dernière guerre mondiale, passer des temps quand même où il y a eu de la prospérité, où il y a eu des avancées, que ce soit sur le plan social, d'une manière... Il y a toujours à faire, ça c'est sûr, parce que le monde, il est comme ça. Mais toujours est-il que, quand même, par rapport à nos parents, par rapport à nos grands-parents qui ont connu deux guerres mondiales, et toutes sortes de choses, nous pouvons remercier le Seigneur de tout notre cœur d'avoir connu Dieu et d'avoir traversé des moments où nous avons toujours vu des éclaircies, ou même nous avons vu des délivrances. Ça, c'est clair. Alors, je voudrais vous dire quelques mots, et là, c'est géographique, eh bien, de ce qu'est un cyclone, un ouragan ou des ouragans, et nous allons dire quelques paroles sur le phénomène, sur les phénomènes. Alors d'abord, il y a des zones de vent calme, c'est très agréable, ça pousse tranquillement, voilà. Et puis nous traversons aussi des vents qui sont, eh bien là, beaucoup plus impressionnants, nous pouvons le signaler. Et au centre de la circulation, alors il y a différents, il y a les typhons, il y a les ouragans, il y a les tempêtes de grande ampleur ou secondaire, et nous voyons que c'est intéressant de voir cette circulation d'air. Alors, il y a celles qui sont en entonnoir, il y a quelque part les tornades, c'est beaucoup plus fin la tornade, c'est très limité, mais c'est terrible aussi. Et puis, la circulation donc de ces ouragans, et il y a, parce qu'on le voit, on peut le voir, ceux qui en étaient témoins, mais qui ne sont pas dedans, mais qui sont finalement spectateurs de ce qui se passe, chez le voisin ou dans le champ du voisin, je ne sais pas comment ça se passe, mais toujours est-il, il y a, et ça c'est important que vous le remarquiez, il y a un mur circulaire autour. Donc, s'il y a un mur circulaire, c'est qu'il doit y avoir un vide à l'intérieur. Ouais, un vide. Alors, on est soit à l'extérieur, on voit la puissance, parce qu'on voit que, quelque part, ça descend du ciel, mais ça remonte. Et avec une force, mais considérable, soulever les voitures, soulever les maisons, soulever toutes sortes de choses. Voilà, de lourd. Un mur circulaire. Ça, c'est la vision que nous pouvons avoir, que je vous reproduis avec des mots, naturellement. Qui fait une ceinture, en quelque sorte, entre l'extérieur et l'intérieur. Et dans l'intérieur, il y a un vide. Et ça, c'est quelque chose. On ne peut pas le savoir. Si, on peut le savoir par les aviateurs. Quand ils font recherche un météorologique, ils passent, ils traversent finalement le mur, et ils sont, eh bien donc, dans l'intérieur. Et quand ils arrivent dans l'intérieur, c'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est un phénomène géographique, un phénomène naturel. Alors, c'est toute la traversée finalement, eh bien, de ce mur. Parce qu'il peut être, je ne sais pas quel, on va en dire deux mots là. Voilà, un grand danger. Et nous devons ajouter cette violence, parce que c'est plus fort que tout ce que nous pouvons imaginer, hein, toutes les souffleries que l'on peut imaginer, parce que c'est comme ça. Hein. Cette masse nuageuse, ténébreuse, elle est faite souvent de l'eau, elle est faite d'eau, elle est faite de glace, et puis de toutes sortes de choses qui montent. Voilà, ça peut être des tôles de maison, ça peut être des choses, hein, des... et ça tue. Hein. Je peux vous dire que c'est quelque chose donc d'assez conséquent. Il y a naturellement eh bien, des dimensions. Et c'est pour ça ce qui est intéressant de savoir que dans les épreuves, il y a des dimensions aussi. Dans les choses qui sont véritablement de la vie des hommes, et là je parle sur le plan moral, il y a des dimensions, des petites, des grandes, enfin toutes sortes de situations. D'après les chercheurs, eh bien, la dimension d'un cyclone, eh bien, c'est de 20 à 40 km. Alors 40 km, ça fait beaucoup. Imaginez-vous que là, vous allez jusqu'à Redon. Hein. Ça, c'est terrible. C'est ce qui est arrivé là, ces derniers temps, dans les plaines du Midwest, aux États-Unis. Et puis, une vitesse. Alors, parce qu'il y a plus que ça encore. Hein. Ils sont indiqués dans les bulletins météo. Hein. Elles peuvent aller de 150 km. Là, ça devient sérieux. Hein. 150 km, il y a eu des interdictions de passer le pont. C'était quand même pas mal ces derniers temps. Hein. Voilà. Hein, mais vous êtes encore sur le pont. Voilà. Et puis, jusqu'à 350, 400 km et quelquefois plus, c'est ce qui s'est passé à Mayotte. Hein. Il ne reste plus rien. Moi, quand je regarde les images, puisque nous avons été à Mayotte il y a quelques années, c'est une île paradisiaque. Hein. Ben aujourd'hui, c'est une île déchetterie. Hein. Tout ce que l'on peut dire. C'est terrible. C'est terrible. Et puis, on a pas su tout, hein, de toute façon, tout ce qui se passait. Et là, il va y avoir pour quelques années à remettre tout ça en place. Alors, la vitesse. Donc, je donne d'ordre d'idée, c'est hein, 350 km et quelquefois plus. Des tornades en spirale ascendante. Elles descendent, elles remontent. Et la force au sol est non maîtrisable. Vous pouvez toujours tenir les portes de votre maison, les fenêtres, etc. Et même ce qu'il y a à l'intérieur, ça sort. Hein. Pas de problème. Ça sort par le toit. Ou ça sort par les orifices. Alors, il y a cet œil dont je voudrais maintenant parler. Hein, on a vu les manifestations extérieures terrifiantes avec des centaines, des milliers, et dans certainement périodes de l'histoire avant, eh bien, il y avait probablement énormément de catastrophes, les gens disparaissaient comme ça. Caché au cœur de la dépression, et c'est là où on va en arriver à la question spirituelle, caché au cœur de la dépression, nous avons la garantie affirmée, contrôlée, enfin pas contrôlée, mais en tous les cas constatée, nous avons cette garantie d'un calme inouï. Rien ne bouge. La lumière. Et toutes les choses qui font défaut, finalement, dans ce mouvement d'air, eh bien là, c'est comme un havre de paix, comme les jardins d'Éden, sauf les arbres et puis tout ce qu'il peut y avoir. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est les aviateurs météorologiques hein, qui ont constaté cela. Et quelquefois, on aurait peut-être tendance à dire, ben voilà, on n'en sort pas, hein, c'est comme ça. C'est bon, c'est bien un grand calme. Mais néanmoins, on sait pertinemment qu'il y a le déchaînement tout autour. Image de notre société, image de notre civilisation, image de tout ce que vous avez, que vous entendez, finalement, jour par jour, par les médias d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense qu'on est encore, toute proportion gardée, on est encore dans l'œil du cyclone. Hein. C'est encore calme dans nos pays. Hein. Mais pour combien de temps? Parce que quand on voit tout autour de nous, que ce soit dans l'Est, que ce soit dans d'autres situations ou d'autres parties du monde, avec la guerre, avec toutes les conséquences que la guerre apporte. Merci Seigneur de vivre encore en paix. Pour combien de temps, naturellement? Bon, on est renseigné quand même par la parole de Dieu qui nous dit « Préparez-vous, je viens bientôt. » Ouais, ça, on le sait. Ce trou paisible, c'est une vulgarité, hein, ce que je suis en train de dire, le trou paisible est synonyme de protection et de sécurité. Ouais. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Prêchez l'évangile, prêchez mon évangile de salut, prêchez mon évangile de paix, prêchez le royaume des cieux. » Et ce trou, donc, est synonyme de protection et de sécurité, et à l'abri, à l'intérieur, tout cela s'y typifie la présence bienfaisante, la présente, comment pourrait-on dire, la bonne présence, préservatrice du Dieu souverain, du ciel et de la terre. J'ai eu la pensée de vous le décrire d'une manière particulière, ce trou, ce bonheur, ce calme, cette tranquillité, pseudo-félicité, on peut dire, peut-être, parce que bon, on est encore sur la terre, hein, faut pas trop se faire d'illusions. J'ai formulé un poème que j'aurais voulu lire pour mémoriser un petit peu les choses. Tout à l'heure, nous avons lu « Le juste ne craint pas des mauvaises nouvelles, son cœur est sans crainte ». Alors, c'est autour de cela, « Paix dans les mauvais jours ». Souvenez-vous-en, hein, frères et sœurs, c'est important. Parce que vous savez, quand ça souffle, d'abord, on voit pas le vent arriver. C'est un souffle d'un seul coup, et ça vous emporte. Le tourbillon vous emporte. Dans le calme ou l'orage, la joie ou la douleur, à toute heure et à tout âge, je regarde à toi, Jésus mon Sauveur. Quand le ciel est menaçant, rassure-moi, ô roi bienveillant. Ma crainte cesse en t'écoutant. On peut écouter, mais on peut lire, on a tout ce qu'il faut pour être renseigné. Ma crainte cesse en t'écoutant, quand les flots grondent de fureur, aussi mon âme demeure sans frayeur. Flot effrayant, flot en furie, quoi qu'il en soit, ta paix est infinie. Récif, écueil, jour après jour, je te recherche et implore ta face. Périls et orages incessants et sans nombre, bientôt avec toi, j'atteindrai le rivage de ta parfaite grâce. Il y a une direction dans tout ça. Alors on peut comparer peut-être les tourbillons, les cyclones naturels, on en a parlé, mais on peut parler aussi de tout ce qui se passe sur le plan moral dans nos vies. Et tout ce qui se passe, finalement, eh bien, sur le plan spirituel. S'il y avait une définition à ces premiers caractères que je suis en train d'échanger avec vous, je dirais cette définition, elle comporte trois mots. Tu m'enveloppes, tu m'environnes et tu m'entoures, Seigneur. Tu es ma haute retraite. Tu es mon asile protecteur, tu es mon aile et je suis sous ton aile. Et il y en a d'autres formulations de cette manière, naturellement. J'aimerais emprunter quelque chose de très simple qui est dans l'Évangile, qui est décliné en trois versions, si l'on peut dire, mais c'est la même histoire. C'est Jésus sur le lac avec ses disciples. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire juste avant. Avec la multiplication des pains, ébahis. Toute cette foule qui est là. C'est un miracle, c'est un prodige que Jésus va faire. Et à un moment donné, au soir tombé, eh bien Jésus va leur dire, venez avec moi, nous allons traverser le lac. Et nous voyons qu'ils se mettent en route. Jésus va rester quelque temps encore pour prier du haut de la montagne. Et il va voir les disciples qui vont s'éloigner un petit peu. Donc Jésus est campeur sur la terre. Les disciples sont sur la mer, enfin sur le lac, et il va les voir partir. Qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Il prie pour eux. Moi, je pense que, c'est pas marqué, mais je pense que Jésus prie pour eux. Ouais. Et à un moment donné, il nous est parlé d'un tourbillon qui va survenir. Ils sont dans la barque, et là, il va y avoir un ouragan. Enfin, à la limite et à la dimension de ce que nous pouvons comprendre, naturellement. Et c'est ce péril involontaire. Ils vont être embarqués. Oui, c'est embarqués. Et là, ils vont vivre des choses assez terrifiantes. On va le voir d'ici dans une situation. En péril sur le lac, et c'est dans Marc que j'explicite un peu les choses. Il nous est dit « la nuit étant venue ». Alors vaut mieux être dans une tourmente de jour que de nuit. Hein. Parce que la nuit, vous ne voyez rien du tout. Hein. Moi, je n'aime pas conduire la nuit en tous les cas. La barque se trouve au milieu du lac. Jésus est toujours là à se recueillir, prier son Père. Il va voir ce qui va se passer. Et il s'aperçoit que les disciples avancent, mais péniblement, ils ont du mal. Et plus ça va, plus le vent fait contraire. Et ils vont véritablement vivre des choses épouvantables. Vous vous rendez compte, les disciples, mariniers, chevronnés, qui ont passé toute leur vie sur ce lac, ça ne leur est jamais arrivé. Il y a des choses qui nous arrivent, qui ne nous sont jamais arrivées, et que Dieu va permettre, ou Jésus va permettre, pour que nous les traversions, non pas tout seul cette fois-ci, parce que ça va être véritablement grandiose, mais traverser avec Jésus. Il y a quelque chose de formidable là. Hein. Alors, ils avancent. On dit comment quand on a des problèmes pour eux dans une situation. Il dit, ils rament. Pour les candidats à l'informatique, vous allez voir que vous allez ramer quelque temps. Hein. Hein. L'intelligence artificielle, mais ça va vous aider, vous allez voir. Hein. Bon, c'est des petits clins d'œil que je fais au passage. Alors, ils s'épuisent à ramer contre le vent contraire et ils sont saisis, eux, ces hommes, qui ont le pied marin, qui ont le pied finalement pour tenir, ils se mettent à trembler, à frémir. Ils vont être remplis d'effroi, nous dit un autre texte. Dans Matthieu 14, il est dit, ils vont faire cette rencontre nocturne. Je suis en train de lier les trois récits. Hein. Ils vont faire une rencontre nocturne. La nuit est tombée. Tout est gris, tout est noir, tout est sombre. C'est l'obscurité. Et là, à un moment donné, ils vont voir un spectre qu'ils vont appeler fantôme. Et Jésus va leur dire, ne craignez point, c'est moi. Mes frères et sœurs, quand vous traversez des moments, écoutez, soyez attentifs. Jésus, à un moment, va vous dire, ne crains point, c'est moi. Ne vous laissez pas effrayer par votre imagination, par vos déductions en disant, mais c'est la fin, c'est terminé, je ne peux pas m'en sortir parce qu'on compte surtout sur les hommes et sur nous-mêmes. C'est moi. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. C'est peut-être pas le fait du hasard. Peut-être que vous avez traversé cette semaine des moments difficiles. Je ne peux pas les deviner, je ne les sais pas. Et puis, de toute façon, ça ne me regarde pas. Hein. Mais vous les avez vécus. Et vous dites, mais comment on va faire? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu va vous donner la possibilité de le faire. Voilà. Il va vous inspirer. Et vous allez suivre cet étroit chemin mystérieux qui quelque part, est tout petit, ça semble insignifiant ce qu'il va vous proposer. Et à un moment donné, la délivrance va éclater. Êtes-vous malade? Physiquement? Moralement? Spirituellement, vous traversez des crises. Vous luttez contre le péché dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Mais le Seigneur est mort à la croix pour vous débarrasser de votre péché. Croyez-le! Et puis bien d'autres choses que je ne peux pas placer, parce que la vie, c'est ça, il y en a... La vie, quelquefois, elle peut avoir les allures d'enfer, hein, pour certains. Moi, je ne veux pas croire que c'est chez les chrétiens, mais chez les gens du monde, chez les gens de l'extérieur, je peux vous dire qu'il y a des sacrées situations. Alors, rencontre nocturne, c'est toujours dans le noir. Et ça, c'est en plus beaucoup plus tragique. Il nous est simplement dit dans Matthieu que la barque allait fouetter par les vents, donc le tourbillon dont nous avons parlé, contre les vagues, contre toutes sortes de choses. Ça craque, un bateau qui est mal, une coquille de noix sur la mer, mais je peux vous dire que ça craque de tous les côtés. Hein. Je ne sais pas si vous avez, moi j'habite dans une résidence, mais même une résidence bien fondée, Quand il y a eu les grands vents dernièrement, là, c'était au mois de décembre ou janvier, etc., quelquefois j'entendais par le haut, parce qu'on est au deuxième étage, on est au-dessus, nous, on est sous les toits. On n'est pas riche, alors on est sous les toits. Il y en a d'autres qui sont à la cave, mais bon, nous, on a choisi le toit. Mais quelquefois, ça craquait à se réveiller. Bon, j'espère que vous allez nous revoir un de ces jours. Si véritablement, vous n'entendez plus parler de nous, c'est qu'on est en dessous. Hein. Bon, j'ai le moral. C'est bien de m'encourager. Alors, ils vont pousser des cris de frayeur. C'est terrible, la frayeur. C'est terrible d'avoir, finalement, de perdre le contrôle, même de notre raison. Hein. On a parlé de Marc, on a parlé de Matthieu, on parle de Jean, maintenant. Il nous est dit qu'un vent violent se mit à souffler. Il souleva les vagues. Moi, c'est joli, hein, quand il y a de la tempête par ici. Hein. Moi, quelquefois, je m'arrange pour aller voir un peu ce qui se passe. Hein. Ah ouais, c'est beau, hein. Ça fait de la mousse. Je sais pas qui c'est qui a déversé un... Je sais pas, moi... la lessive, parce que ça mousse bien, hein, en tous les cas. Voilà. C'est beau. Et ça soulève. Et le lac devient, mais terriblement houleux, bien sûr. Hein. Et on peut dire que c'est la panique à bord. Hein. Moi, j'ai pas trop le pied marin. Ça m'est arrivé de prendre le bateau pour traverser, pour aller dans certaines régions. Mais je suis jamais rassuré, moi. Ah oui. Je me dis, si ça coule, je sais nager. Mais faire 500 km à la nage, ça fait beaucoup, hein, pour rattraper le rivage d'à côté. Hein. Et nous pouvons nous penser, et c'est là où nous avons besoin de ne pas oublier où se trouve l'œil du cyclone, là où l'endroit, là où se trouve le rocher, là où se trouve l'asile. Ben, il a un nom, hein, l'asile, vous le connaissez. Hein. Il porte un nom d'homme, il porte le nom de Jésus, hein. Et de pouvoir s'y réfugier. Mais vous savez, on n'ira pas tout seul. C'est le Seigneur qui va nous y conduire. Parce qu'à un moment donné, quand Jésus a mis seulement le pied dans la barque, il nous est dit que la barque toucha le rivage. Ça, c'est du supersonique. Mais où se réfugier? Au sein du tumulte apparaît Jésus qui les rassure. Il l'avait déjà dit d'abord au départ, dans le plein de tempête, quand il criait « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et là, maintenant, eh bien, les choses vont être... changer d'une manière tout à fait particulière. C'est moi, n'ayez pas peur. Et à ce moment, la tempête se calme aussitôt. C'est pas finalement une coïncidence qui est arrivée. C'est un projet, un prodige. C'est du surnaturel de Dieu que l'on peut classer dans les dons du miracle. C'est Jésus qui le fait là. Eh bien, croyez aux dons spirituels, mes frères. Croyez que il y a les dons que nous partageons entre nous, c'est les dons vocaux. Prophétie, interprétation, etc. Qu'il y a les dons du pouvoir miraculeux. C'est la foi, le don de foi, c'est le don du miracle et c'est le don des guérisons. Et puis le troisième, c'est le don des révélations. Que ce soit la connaissance, finalement parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Il y en a 9 et ils sont pour nous. Et aujourd'hui, nous les oublions. Mais attendez, hein. Ces dons ne fonctionnent, et moi je suis très ferme sur le sujet, ces dons fonctionnent que dans la mesure où ils sont accompagnés des fruits de l'esprit. Autrement, c'est de la rigolade. Excusez-moi le dire, c'est choquant. Hein. Mais c'est des dons qui fonctionnent sans les fruits, eh bien moi je vous dire ce que c'est tout simplement un discrédit de l'Évangile. Les fruits de l'esprit et les dons du Saint-Esprit, ils marchent ensemble. Et quelquefois, on a été abusé par toutes sortes d'élucubrations, voilà, de certains qui racontent n'importe quoi, qui ne connaissent pas la doctrine biblique et ce que l'apôtre Paul eh bien, a enseigné. Ça marche ensemble. Il y a 9 dons et il y a 9 fruits. Souvenez-vous-en pour les temps à venir. Parce que là, on a tendance à oublier finalement cette dimension spirituelle des choses. Bon, je m'arrête là parce que c'est un autre sujet. « C'est moi, n'ayez pas peur !» Et la tempête se calme aussitôt, et ils arrivèrent au rivage d'en face, sains et saufs. Ils ont dû en parler après. Dis donc, l'a échappé belle. Hein. Oh, aïe, aïe, c'était quelque chose. Alors, je vais rentrer dans la dernière partie de notre méditation. « Le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur, eh bien, est ferme. Ouais. C'est ça ce que nous avons besoin. Parce que vous savez, nous avons un ennemi qui fera tout dans votre vie. Tant que vous serez sur la terre, tant que vous serez sur la terre et que vous resterez fidèle au Seigneur, il fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il fera tout pour vous enquiquiner. Il fera tout pour vous troubler. Il fera tout pour vous faire peur, pour vous inquiéter, vous donner du souci. Il fera tout pour vous faire trembler. Et c'est ça justement ce qu'il faut voir. Écoutez bien, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est à nous de les rejeter. Parce que nous avons une raison qui n'est pas toujours très raisonnée. Hein? Nous nous imaginons des choses alors que le Seigneur veut nous faire eh bien, espérer dans ses promesses de délivrance. Et tout cela, ça vient, ça fait éruption dans la tempête. Situation du mauvais jour. Parce qu'il y a des fois, c'est comme ça, hein? C'est pas toujours très évident. Lorsque nous sommes plongés dans l'adversité, lorsque nous traversons des deuils, parce que là c'est tout à fait critique, quand on perd quelqu'un que l'on aime, ascendant ou descendant, ou ami, ou frère et sœur dans nos églises, et oui, et lui il attaque à ce moment-là. Il augmente nos larmes, il augmente nos douleurs, il augmente nos chagrins, et il veut nous maintenir dans le chagrin. Mais il y a près de vous, mes frères et sœurs, on est en train de le lire, il y a dans l'œil du cyclone la paix, la tranquillité et l'espérance. Oui, ça c'est important, l'œil du cyclone. Et vous savez que, je le dis, que le secours de Dieu est la clé de voûte de la délivrance. Et vous savez, cette délivrance, elle ne fonctionne que par la foi. La foi, c'est s'abandonner. La foi, c'est finalement, eh bien, renoncer à nous-mêmes. La foi, c'est faire confiance totale et complète en Dieu. C'est laisser Dieu faire. On veut faire les choses. Alors, on va prendre, pour terminer, vous pouvez ouvrir à la page, hein, le psaume 107. Le psaume 107, c'est l'état des lieux qui nous montre des hommes en détresse, mais où il y a à chaque fois une promesse de délivrance. Alors, psaume 107, je voudrais simplement vous citer quatre éléments de tourbillon, de tempête, de cyclone, de typhon. Il est très beau ce psaume, vous allez voir. Je vous l'apporter par fraction, hein, seulement parce qu'il est quand même assez long. Voilà. Nous y trouvons le désert dans la solitude. Ah, ça c'est quelque chose. Nous y trouvons les angoissés de la mort. J'expliquerai pourquoi. Nous y trouvons les coupables et les condamnés. Et nous y trouvons en finale les naufragés de l'océan. Et on va le dire. Désert dans la solitude. Écoutez bien. Ils erraient dans le désert et marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter, c'est-à-dire un lieu de repos, un lieu de paix. C'est le monde aujourd'hui. Regardez les gens qui sont des pauvres émigrés qui vont d'un pays à un autre. Et puis il n'y a pas que l'histoire géographique et historique et politique. Non. Il y a des gens qui sont peut-être même au milieu de nous et qui ne trouvent pas un lieu de repos. Voilà. Hein, une ville où habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif et leur âme était languissante. Désert dans la solitude, ce sont tous les égarés de la terre et ceux qui sont sans repère. Bénissez le Seigneur de ce que nous ne sommes plus égarés et de ce que nous ne sommes pas sans repère. La parole de Dieu est là. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, qu'elle soit à la lecture des yeux, que ce soit à l'oreille pour l'écouter, ou que ce soit finalement, eh bien, à travers tous les moyens, même les moyens modernes. N'allez pas penser, comme certains l'ont dit, que ça vient du diable. Non, non, pas ça. C'est l'utilisation que nous en faisons. C'est ça ce qui est important. C'est comme la télévision, c'est comme tout ce que vous voulez. Même une Bible qui serait sortie des mains de Gutenberg, qui est sortie des mains de Gutenberg, on peut en faire du bien, mais on peut en faire du mal, avec des fausses doctrines. les théologies qui sont complètement tordues. Alors, ce sont les égarés, ce sont les sans-repères, ce sont les désorientés de l'existence. Pour ceux qui font du social, vous savez, la misère qu'il y a autour de nous. Pas possible. Des enfants, des adolescents, peut-être abandonnés par leurs parents, toutes sortes de choses qui n'ont jamais connu une vie d'enfance heureuse. Tous ceux qui sont maltraités, volés, violés. C'est ça la situation dans laquelle on est. Alors on comprend qu'ils peuvent être désorientés de leur existence. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils reproduisent ce qu'on ne leur a pas donné. Ou ce qu'on leur a donné, mais en mal. Leur âme est languissante. Il y a les angoissés de la mort. Qu'est-ce qu'il nous est dit un peu plus loin? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Les angoissés de la mort. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est très paradoxal. Les gens veulent vivre et il y a beaucoup de gens qui veulent mourir aussi. Les suicides. Alors, ça peut être immédiat, mais ça peut être sur une vie entière. On veut mourir. Ben, si on veut mourir, c'est qu'on n'a pas compris le sens de la vie que Dieu nous a donnée. Mais, excusez-moi, je ne voudrais mettre quand même l'Église et les chrétiens qui connaissent Jésus. Hein, je les mets de côté, hein, bien sûr. Mais ça peut arriver. Oui, mes frères et sœurs, moi j'ai connu des divorces dans l'Église. Pas des divorces, des suicides. Vous savez, ça fait un drôle d'effet. Hein. Et maintenant, ce n'est pas à nous de juger pourquoi il est mort, pourquoi elle est morte. Ce n'est pas à nous de juger et donner finalement un diagnostic. Ah oui, il y a ceci et cela, etc. Comme dans le Moyen-Âge, on disait que celui qui se passait la corde au cou, eh ben, c'était un damné. Terrible. Non, Dieu sait tout. Et n'essayez pas d'expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Parce qu'on n'a pas toujours été très, très drôle. Hein. On n'a pas toujours été très fin. Il y a eu des époques, aujourd'hui, maintenant, on prend en compte un petit peu plus ça. Moi, je dis que ces angoissés, eh bien, ils sont aimés de Dieu quand même. Oui. C'est pas à nous de monter sur le tribunal de Dieu pour savoir s'ils sont sauvés ou ils sont perdus. Il faut voir la vie avant. Il faut voir ce qu'ils ont connu. Il faut voir toutes sortes de choses. Alors, les angoissés de la mort, ceux qui se posent la question, mais pourquoi je vis? Pourquoi? Dans quel but est le sens de ma vie? Eh oui, il y a des faibles et des forts, c'est certain. Soyons du côté des forts et n'apportons pas finalement des décrets juridiques. Parce que c'est terrible. Vous savez, il n'y a qu'une réponse. On ne l'a peut-être pas, mais c'est l'amour, c'est aimer. Les misères de la servitude, la peur. Il y a encore un autre type, c'est les coupables et les condamnés. Ça touche au péché particulièrement. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Ah, ça, on le sait, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les exhortations, fais le bien, mais ne fais pas le mal. Parce que le mal, il est payant. Hein. Ça, c'est sûr. Le bien aussi. C'est vrai, mais pas dans le même sens. Ouais. Leur âme avait en horreur toute nourriture. C'est la dépression, ça. C'est véritablement se dégoûter soi-même. C'est véritablement se rejeter soi-même. Ils touchaient les portes de la mort dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, etc. On en tirera la conclusion d'ici quelques instants. Les coupables et les condamnés. Vous savez que Jésus est venu pour mourir à notre place. Il est le Rédempteur, il nous a rachetés. Il est notre substitut, c'est lui qui est mort à notre place, en lieu et place. Il est notre sanctification, pour faire que nous soyons de nouvelles créatures. Il est véritablement notre justification, puisqu'il a dit à Dieu le Père, « Eh bien, tu me châties, moi, je meurs à la croix pour eux, mais maintenant tu leur donnes, tu leur fais grâce. » Coupables et condamnés, les tourments de la culpabilité du péché. Mes frères et sœurs, on pêche tous, on pêche. On pêche tous. Il n'y a pas de grands et de petits pêcheurs, on est tous des pêcheurs. Mais si nous rentrons dans l'œil du cyclone, à l'abri, alors à ce moment-là, vous pouvez vous dire que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Et arrêtez de vous culpabiliser. parce que vous n'avez pas fini, hein. Et puis il y en a un qui alimente, qui donne du carburant à votre culpabilité, c'est le diable. Ouais, c'est pour ça qu'il vous enflamme, pour ça qu'il dit « je suis perdu ». Non, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sauvé. Faites confiance à Dieu. Ouais, ils en perdaient même le goût de la nourriture, parce que ça ne leur disait plus rien. Mais écoutez, vivez en demandant à Dieu qu'il vous remplisse de paix et de joie, de sa paix et de sa joie. Vous mettez ça dans vos prières. Vous savez, on passe tous, même le pasteur, il passe par des moments qui ne sont pas toujours très roses. Hein. On en a passé, mais pour le reste qui nous reste à vivre, on ne sait pas ce qu'on va vivre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut rester enraciné sur les paroles de Jésus, sur l'œuvre de Jésus. Et c'est comme ça qu'on arrivera au bout et qu'on pourra s'endormir du sommeil du juste, dans la paix de Dieu. Je termine par la quatrième. Ce sont les naufragés de l'océan tumultueux, ceux qui perdent pied. Ah oui, on a vu des gens qui avaient une éducation, qui avaient une culture, qui avaient toutes sortes de choses, morales, hein, religieuses peut-être, mais quelquefois, ils perdent pied. On a vu des enfants de Dieu qui, au bout d'un certain temps, je ne vous citerai pas parce que vous en connaissez, les noms. Mais je me dis, mais c'est pas possible. On les a vus se convertir, on les a vus se faire baptiser, on les a vus prononcer leurs vœux à Dieu. Vous avez dans la petite pièce à côté là, hein, vous l'avez entendu d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait publiquement. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Détournement, ou je ne sais quel, ce qui les a piqués. Et à un moment donné, ils retournent à ce qu'ils ont vomi, vous connaissez, dans l'épître de Pierre. Ouais. Ils ont été quelquefois de bons chrétiens. Ils ont porté des fruits un temps. Ils ont véritablement servi le Seigneur. Ils ont rendu témoignage, etc. Et à un moment donné, paf, ils tombent comme une pierre là de, je ne sais, oui. Ils sortent en quelque sorte de la zone de protection, l'œil du cyclone. Et ils vont traverser la muraille. Et puis ils vont se retourner à tourner finalement avec le cyclone. Ils vont se retrouver au point de départ qu'ils étaient, lorsqu'ils étaient passés, qu'ils l'avaient passé pour se mettre à l'abri dedans, et là, ils vont passer en arrière. Ça fait pleurer, hein. Moi, j'en connais, hein. Puis des gens que je connais très proches. Et de dire, mais c'est terrible. Priez pour vos enfants. Priez pour les frères et sœurs, pour qu'ils tiennent le coup. Priez pour que ceux qui rendent témoignage les jours du baptême, eh bien, véritablement, ils s'accrochent. Et qu'ils soient bien convertis. Et qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Parce que qu'est-ce qu'on en a vu des entrées et des sorties? C'est un attristement pour l'Église, ça. Il faut prier pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Par contre, on a vu des gens qui sont rentrés, qui sont sortis et qui sont re-rentrés. Il y a tout. Alors, je vais terminer. Les naufragés de l'océan tumultueux, ceux qui perdent pied, ceux qui finissent par avoir la nausée de la vie. Ah oui, c'est ce que c'est que la nausée. Hein. De l'aventure existentielle en disant « mais je serai mieux là-haut ». Eh oui, mais bon, bien sûr, c'est certain. Hein. Alors je termine par une dernière pensée. Quatre types que nous avons vus là, dans le psaume 107, qui ont ce point commun, ces quatre phrases qui sont données dans le psaume, écoutez bien, dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans leur détresse, dans leur misère, touchée profondément, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait la réaction? C'est qu'ils crièrent à Dieu. On peut toujours crier aux hommes et ils vont faire ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai toujours cette maxime en ce qui concerne la santé. Je me dis, les hommes soignent, donc les médecins, les soignants et tout ça, il faut les respecter. Mais je dis, le protocole supérieur, c'est le protocole du Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous faire opérer joyeusement. Et priez pour ceux qui vous opèrent. Priez pour ceux qui vont intervenir. Parce que Dieu est capable de leur donner une sagesse, une intelligence sur le moment pour vous. Ce n'est pas qu'ils font volontairement des erreurs, mais ça peut arriver. Vous savez, ils travaillent beaucoup, hein, les gens dans les blocs. Hein. Et longtemps, quelquefois. Hein. Remettez, priez pour eux, pour que Dieu les bénisse. Et il va vous bénir à travers ces gens-là. Mais la guérison, vraiment, c'est Dieu qui la donne. On en a fait l'expérience. Hein. Alors ils crièrent à l'Éternel, c'est pas ils prièrent à l'Éternel. Il n'est pas dit, ils murmurèrent une petite, finalement, une petite, « Seigneur, si tu as le temps, Seigneur, si tu veux. » Mais le Seigneur le veut, mes frères et sœurs. C'est vous qui ne croyez pas qu'il le veut. Ils crièrent à l'Éternel, et c'est beau, il les délivra de leurs angoisses. Et voilà, il les a maintenus dans, eh bien là, l'œil du cyclone. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien avec lui. Puis même quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, même lorsque nous sommes affligés par des mauvaises nouvelles, eh bien le cœur du juste, le cœur de celui qui a la foi, parce que juste, c'est la foi, la justice, alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on reste dans la paix de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce.